savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotin.
Bonjour et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Égaux, égales, devant et derrière la caméra, est-ce possible, est-il possible qu'à compétences égales, les femmes aient enfin les mêmes chances, les mêmes carrières, les mêmes budgets, les mêmes salaires, la même longévité professionnelle dans le cinéma que les hommes? C'est une question qui agite énormément le milieu du cinéma dans les pays anglo-saxons depuis octobre 2017 et l'affaire Weinstein, la vague MeToo qu'il s'agisse de la parité, des violences, du harcèlement sur les plateaux, de la représentation des femmes à l'écran. On a même vu le vénérable quotidien britannique, le Guardian, couvrir d'éloges le nouveau film de Martin Scorsese, The Irishman, tout en consacrant dans le même temps un article entier au personnage féminin du film, hein, puisque presque comme toujours chez Scorsese, ils sont sous-écrits et sous-exposés. Voilà ce qui permet de dire qu'on peut être à la fois cinéphile et féministe. C'est à ma connaissance le seul journal au monde qui se soit fait cette réflexion. Et effectivement, ailleurs, c'est un petit peu moins simple. Alors, il y a quelques mois seulement, en septembre, Alberto Barbera, le patron de la très prestigieuse Mostra de Venise, expliquait qu'il faisait ses choix en se fiant à la qualité des films et non pas au sexe des réalisateurs. Le résultat, on le connaît, sur 21 films de sa compétition, un seul était réalisé cette année par une femme. Voilà pour l'Italie. En France, que se passe-t-il? Où en sommes-nous sur le long chemin de l'égalité homme-femme? C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui dans tous les cinémas du monde avec nos trois invités. Toutes trois membres du collectif 50-50, dont les assises se sont tenues voici 15 jours au CNC. Sandrine Brouwer, vous êtes productrice, vous avez produit entre autres Le procès de Viviane Amsalem et Je danserai si je veux, et puis plus récemment Le figuier. Bonjour.
Bonjour.
Laurence Lascari, vous êtes productrice, votre société s'appelle De l'autre côté du périph, c'est tout un programme, et vous avez produit récemment L'Ascension avec Ahmed Silla, qui a été un vrai grand succès populaire. Preuve que diversité et box-office ne sont pas forcément antagonistes. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes aussi scénariste, je crois.
Je débute, on va dire.
Et Julie Billy, alors vous êtes productrice chez Wecourt. Vous avez travaillé entre autres sur Latifa, Le cœur au combat, et puis La nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher, qu'on recevait voici quelques mois au Festival d'Angers. Et vous avez fondé Le Deuxième Regard il y a 7 ans, je crois, c'était en 2012. Expliquez-nous le contexte, et puis aussi, c'était un peu le précurseur du collectif 50-50, je crois.
Tout à fait. En fait, on a créé le Deuxième Regard avec Delphine Bess et Bérénice Vincent, qui sont deux agents internationaux qui vendent les films à l'international. À l'époque, on était donc très jeunes et très jeunes dans notre milieu aussi, et on se rendait compte que les femmes n'avaient pas la visibilité. Et pourtant, nous, on ne se sentait pas différentes. On avait grandi dans une très grande mixité, dans ce qu'on croyait être une grande égalité. On ne voyait pas cette égalité se refléter sur nos plateaux et dans notre univers professionnel. Donc on a monté Le Deuxième Regard, qui était une association et qui était vraiment un réseau. On faisait des avant-premières, on mettait en avant les films réalisés par des femmes. Et puis ensuite est arrivé Weinstein et l'affaire Weinstein, qui a eu peu de retentissement en France. Et à ce moment-là, on s'est regroupé avec Céline Sciamma, avec Rebecca Zlotowski, qui suivait aussi Le Deuxième Regard depuis ses débuts. Et puis avec d'autres productrices, avec Laurence, Sandrine, les productrices de Silex notamment. On était 40 à une première réunion qui a eu lieu en janvier 2018. Et puis ensuite, on a lancé un appel aux signataires pour faire partie de ce collectif, se regrouper un collectif mixte, composé d'hommes, de femmes, de personnalités.
Vous êtes à combien en termes de mixité ?
Aujourd'hui, on est 1500.
D'accord.
Pardon, en termes de mixité ?
Ouais. Bon, il y a beaucoup d'hommes.
Pas beaucoup d'hommes, mais ils arrivent. Et ceux qui sont là, ils sont très engagés et ils sont très importants.
Et par exemple, au tout début du collectif, qu'est-ce qui vous a le plus surprise, justement ? J'imagine qu'il y a une sorte d'état des lieux, que la parole, au moins en interne, s'est libérée.
En fait, ce qui était le Le passage du deuxième regard au collectif, il s'est fait sur des chiffres. C'est-à-dire que le deuxième regard, quand on parlait de ce manque d'égalité, on n'avait pas de chiffres. Nous, on les comptait nous-mêmes sur les 400 films français par an. Bah, on prenait notre film français et puis on comptait le nombre de réalisatrices femmes et on faisait nos pourcentages toutes seules. Très vite, avec le collectif, c'est la première chose qu'on a demandé. C'est d'avoir des données objectives et chiffrées. Parce que sans chiffres, on n'a pas d'argument. Et on ne peut pas rester que sur une image, sur une représentation. Il fallait qu'on parle de quelque chose de concret. Donc c'est la première chose qu'on est allé chercher. On a travaillé avec l'agence Datcha, qui a produit ses premiers chiffres pour nous, les chiffres des Césars, les chiffres des inégalités salariales. Et on voyait que les femmes étaient représentées en tant que réalisatrices à 23%. Sur une année, qu'elles avaient des écarts de salaire avec leurs collègues réalisateurs de 36% et que plus elles avançaient dans le temps, moins elles faisaient de films. Donc c'est tous ces chiffres-là qu'on a souhaité déjà avoir et puis ensuite analyser ensemble.
Et puis ça a commencé aussi assez vite avec l'exigence en tout cas de plus de parité dans les festivals. Assez vite, le comité a demandé notamment à Cannes.
Oui, ça, c'était la première grande action de communication. Donc, suite à la création en janvier 2018 et à un atelier qu'on organisait en mars avec une centaine de participants, très rapidement a émergé l'idée de faire une action forte à Cannes et de travailler sur cette charte destinée au festival qui a été proposée à Thierry Frémaux. Puisque c'est aussi ça la force d'un collectif, c'est que toutes les personnes qui composaient le collectif ont mis en commun leur réseau, leur pouvoir, etc., au service de cette cause-là.
On partait de loin, on y reviendra peut-être, mais on partait de loin, parce qu'il y a quelques années, Thierry Frémaux disait la même chose que Alberto Barbera, que vous citiez, Elisabeth, à savoir, on se base sur la qualité des films, cette année, j'ai choisi les meilleurs films, mais il n'y a que des hommes, c'est comme ça.
Mais je pense que c'est toute la vertu de ce que Julie vient d'expliquer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait des chiffres, des données chiffrées, ça objective. Donc on sort du sentiment au doigt mouillé. Et d'ailleurs, mais vous savez, c'est vrai au début du collectif 50-50, c'est vrai aujourd'hui dans toutes les discussions qu'on a, on a souvent des interlocuteurs qui nous regardent avec des yeux ronds, qui disent « Ah bon, quand même, j'ai l'impression que ça va mieux ». Et en fait, j'ai l'impression que ça va mieux, ou alors, mais moi ça va, je fais ce qu'il faut, c'est souvent vrai. C'est-à-dire le sentiment est vrai, et le fait qu'individuellement on s'adresse à des individus qui pensent bien faire est vrai. Il ne reste pas moins que les études permettent de dézoomer et d'avoir une photographie d'ensemble. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Thierry Frémaux du Festival de Cannes, mais ensuite beaucoup des sélectionneurs de festivals, des grands patrons de grands festivals. Ça a été de dire, si on considère que vous êtes au bout de la chaîne, qui était l'argument souvent des festivals, ok, très bien. C'est vrai que vous n'êtes pas en cause. Mais là où vous agissez, quel est votre impact? Est-ce que vous avez un impact positif, neutre ou négatif? En d'autres termes, sur le nombre de films qui vous sont soumis, est-ce que vous participez à faire disparaître la place des cinéastes femmes ou est-ce qu'au contraire, vous participez à les rendre plus visibles? Ou est-ce que vous êtes complètement neutre sur cette question? Et si vous êtes complètement neutre, de quel côté est-ce que vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie de favoriser un petit peu? Donc en fait, la signature de la charte, qui a été une des premières grandes actions, comme disait Laurence, ça a permis de rassembler les festivals autour de cette question, de fabriquer l'outil de mesure. Et cet outil de mesure, c'est qu'il communique sur le nombre de films qu'on leur envoie et le nombre de films qu'ils sélectionnent, selon qu'ils sont réalisés par des hommes ou par des femmes.
On these steps today stand 82 women, representing the number of female directors who have climbed these stairs since the first edition of the Cannes Film Festival in 1946.
82 femmes se tiennent sur ces marches aujourd'hui. 82, c'est le nombre de films réalisés par des femmes invitées à concourir en compétition officielle depuis la première édition du Festival de Cannes en 1946. Dans le même temps, 1688 hommes ont pu monter ces mêmes marches. En 71 années de ce festival, renommé, le jury a été présidé par deux femmes seulement. La prestigieuse Palme d'Or a été décernée à 71 réalisateurs, trop nombreux pour être cités ici un par un, mais seulement deux réalisatrices, Jane Campion, qui est avec nous en pensée, et moi, Agnès Varda. Une remarque, chère Kate, la palme de Jane était ex aequo et la mienne honoraire. Ces chiffres sont éloquents, irréfutables. Nous sommes actrices, productrices, réalisatrices, scénaristes, directrices de la photographie, agents artistiques, monteuses, distributrices, exploratrices. Nous travaillons toutes dans l'industrie du cinéma. Nous sommes solidaires des femmes dans toutes les industries.
Nous espérons nos institutions actively provide parity and transparency in their executive bodies and provide safe environments in which to work.
Nous mettons au défi nos institutions pour organiser activement la parité et la transparence dans les instances de décision et partout où les sélections se font.
The stairs of our industry must be accessible to all. Let's climb.
Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allons-y, on monte.
C'était un grand moment du Festival de Cannes, hein. C'était en 2018, donc la montée des marches par 82 femmes, dont Agnès Varda et puis la présidente du jury, Kate Blanchett. Vous y étiez toutes les trois?
On les a organisées, donc on y était. Ouais, c'est extrêmement,
c'est un moment extraordinaire.
Ouais, c'est extrêmement émouvant de le réécouter, parce que moi, je n'avais pas du tout réentendu depuis ce moment-là, ce qui était très émouvant sur le moment, mais réentendre Agnès, c'est très émouvant. Et en fait, tout ça, c'est créé en 10 jours, en fait, ce moment, ce texte, la volonté immédiate de Kate Blanchett et d'Agnès Varda d'en faire partie et d'être la parole de ce texte qui était écrit à plusieurs mains, la coordination aussi avec nos mouvements amis que sont Time's Up, Time's Up UK, la Greek Woman Wave, enfin tous ces mouvements internationaux qui étaient présents avec nous. Et ce qui était beau, c'est que sur ces marches, il y avait donc 82 femmes et 82 femmes qui n'étaient pas que des comédiennes ou que des personnes qui ont la visibilité, mais qui étaient des monteuses, des directrices de la photo, des personnes qu'on voit moins dans l'espace public et qui font le cinéma, qui font les équipes de cinéma. Donc c'était un moment joyeux, fort et qui a été l'image qui accompagnait le travail de fond sur cette charte festival qui désormais, depuis cette première signature par Thierry Frémaux, Charles Tesson et Edouard Weintraub,
et aujourd'hui Paolo Moretti,
aujourd'hui,
qui est le nouveau délégué de la quinzaine.
Cette charte est désormais signée dans plus de 112 festivals à l'international et continue de s'étendre. Et voilà, on récolte énormément de chiffres et c'est vrai que ça a été le début de quelque chose. Donc c'est très émouvant.
Et effectivement, tous les festivals qui ont signé, une des présidentes du mouvement s'appelle Delphine Bess et elle le circule dans beaucoup de festivals et elle fait signer ces festivals. En fait, ça enclenche un dialogue incroyable qui s'accompagne d'une démarche volontaire des festivals, de prendre conscience, est-ce qu'effectivement ils ont un entre-soi, est-ce qu'il faut casser cet entre-soi. Et donc ça devient très concret. Et comme les festivals s'en parlent entre eux dans leur façon de sélectionner les films, dans leur façon de les montrer, ça nourrit aussi les dialogues qu'ils ont avec tous les partenaires de création. Et ça, c'est extrêmement important parce que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et on a l'impression que ce dialogue-là est enclenché de manière extrêmement favorable. Donc après ce moment très fort de Cannes,
il y a eu donc cette décision, donc un bonus, en fait, c'est ça, pour les productions qui arrivent à une parité dans les équipes.
Exactement, exactement. L'idée, c'était de se dire que la disparition des femmes devant et derrière la caméra se quantifie, et qu'on n'a pas vocation à être réalisatrice du jour au lendemain, et que du coup, notre objectif n'était pas d'imposer des nombres de femmes réalisatrices, et en plus, on ne pense pas que ça ne se passe qu'à ce niveau-là. Et c'est sur l'intégralité des métiers que ça se situe, et les études nous ont permis d'identifier qu'il y avait une moins grande densité de carrière. Alors, c'est quoi une densité de carrière? C'est le nombre de films qu'on peut faire en 5 ans, en 7 ans ou en 10 ans. Et de manière rigoureuse, les hommes et les femmes ne font pas les mêmes films, la même quantité de films, quelle que soit la casquette, quel que soit le métier, et y compris réalisateur. Je crois qu'il y a un différentiel d'à peu près 30%.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a un décrochage des femmes qui est très fort à partir du deuxième et surtout du troisième film.
Oui, là, vous parlez des réalisatrices, mais c'est vrai aussi dans les métiers. Or, on sait qu'une chef opératrice, par exemple, peut très bien devenir réalisatrice. Ça arrive aux hommes, enfin, les chefs opérateurs, hommes ou femmes, peuvent devenir réalisateurs. Mais on voit bien qu'il faut éprouver son métier. Il faut faire un film, 2 films, 3 films, 5 films. Il faut grandir dans son métier. Il faut apprendre. On est dans un métier où on apprend en permanence. Donc le fait de faire moins de films est extrêmement pénalisant pour grimper tout simplement dans l'échelle du cinéma, pour être chef de poste dans tous les postes confondus et pour devenir éventuellement réalisateur. Donc la bonification s'appuie exactement sur cette analyse-là. C'est de se dire, voilà, Il y a une équipe de créateurs autour d'un film. Les fées qui se penchent sur ce berceau sont des chefs de poste qui sont le chef monteur, le chef opérateur, l'ingénieur du son, le directeur de production, enfin le chef costumier. Enfin, ce sont des gens qui contribuent par leur création. Et on a identifié donc une grille de 10 points. Et si on a plus de 5 points sur 10, on peut accéder à cette bonification. Et la bonification, c'est plus 15% du soutien que les producteurs ont quand ils les mobilisent.
Est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est un tout jeune collectif, 50-50, mais avant il y avait le deuxième regard, vous avez l'impression qu'on vous regarde plus tout à fait comme au début?
Oui. Et j'en veux pour preuve ce petit badge que vous voyez, c'est
très joli,
très
petit badge.
Tout le monde veut le porter 50-50. Dans le métier, que ce soit des hommes ou des femmes, donc c'est une manière aussi de marquer une solidarité pour ces idées-là.
Julie Villy,
je crois qu'on a créé un moment joyeux, à la fois de réflexion politique et d'action concrète, mais aussi joyeux. On n'est pas là pour shamer, on n'est pas là pour attaquer.
C'est-à-dire pour faire honte.
Ouais, on est là pour vraiment créer un moment collectif où les hommes, les femmes de tous les milieux s'emparent du problème et vont vers une évolution pour que notre secteur, qui est un secteur de représentation du monde, devienne aussi exemplaire que ce que le monde devrait être. Et le monde ne l'est pas, le monde n'est pas égalitaire, mais on peut nous proposer quelque chose de différent. Et je crois que c'est dans cet esprit joyeux et positif que le collectif s'est créé, qu'il vit. Nos réunions sont très joyeuses, très vivantes, et je crois que c'est là la différence. Et puis après, c'est aussi un moment d'écoute, c'est-à-dire qu'enfin, on entendait notre parole. Pendant le deuxième regard, je peux voir la différence, on l'entendait pas du tout. Et on avait justement ce que tu disais, Sandrine, tout à l'heure, beaucoup de gens qui nous disaient « Mais enfin, il y a plein d'actrices !» Oui, enfin, il n'y a pas que des actrices, il y a aussi des ingénieurs du son, il y a aussi... Et typiquement, dans la filière du son, c'est une filière
qui
du son...
masculine,
qui
je crois.
Est extrêmement masculine. Il y a, je crois, 2% de femmes dans la filière du son, 2% de femmes dans les filières de son, dans les écoles. Vincent Louis, à Louis Lumière, essaye de changer les choses activement pour recruter plus de jeunes filles, de jeunes étudiantes en son. Et en fait, on ne peut changer les choses qu'en proposant de nouveaux modèles et en montrant que c'est possible, totalement possible, d'être ingénieur du son et femme.
Et je voudrais revenir sur cette année, justement 2018, où le collectif travaillait, était une vraie force de proposition. Et dans le même temps, on pouvait penser que le moment MeToo tardait à arriver en France. Puis tout à coup, la publication de cette double enquête dans Mediapart, hein, une enquête, il faut le dire, hein, signée Marine Turki. Donc c'était début novembre. L'actrice Adèle Haenel accuse le cinéaste Christophe Ruggia, je la cite, hein, d'attouchement et de harcèlement sexuel sur le tournage des Diables. Et après, donc à l'époque, en fait, aujourd'hui elle en a 30, à l'époque elle avait entre 12 et 15 ans.
C'est un processus très long parce que ça va de juste essayer de commencer par survivre, après avoir une colère qui passe peut-être un peu qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème en fait, et de se dire pour soi-même effectivement c'est un problème en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, donc ça c'est un cheminement. Je veux dire, ça fait 17 ans hein, que c'est. Donc c'est un cheminement ultra long. Là on parle de la dernière année. Et puis il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça en fait aussi que je parle. C'est parce que en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi.
Voilà le témoignage d'Adèle Haenel. Est-ce que vous pensez qu'il y a politiquement un moment Adèle Haenel dans le cinéma français ? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne parle pas personnellement, c'est-à-dire elle prend en compte tout le système qui conduit à ça.
Ben c'est bien pour ça qu'il y a un moment Adèle Haenel, c'est qu'elle prend une hauteur de vue, c'est ce qu'elle dit aussi, elle le doit à toutes celles qui l'ont précédée. Et elle permet certainement à toutes celles qui vont lui succéder dans cette prise de parole, elle prend une hauteur de vue qui permet... elle contribue à changer le monde. Elle dit que le monde a changé, mais elle y contribue elle aussi. C'est-à-dire qu'elle prend une parole qui n'est pas qu'un simple témoignage. Elle sort publiquement 18 ans, 17 ans après les faits dont elle parle. C'est-à-dire après certainement une très longue période de maturation, de réflexion intime et personnelle.
Et de souffrance aussi, possiblement.
Certainement, certainement. Et elle sort dans un moment où elle apprend... parce qu'on est un métier où on sait ce que font les uns et les autres, elle apprend que le réalisateur dont elle parle va refaire un film avec des adolescents. Et du coup, c'est là que sa parole est extrêmement politique aussi, c'est qu'elle sait ce qui lui est arrivé. Elle sait qu'elle n'a pas porté plainte. Elle sait qu'elle a digéré et surmonté ses blessures comme elle a pu dans sa sphère intime. Et tout d'un coup, elle doit prendre part au mouvement, elle doit prendre part au monde, à façonner le monde. Et c'est en ça que sa parole est éminemment politique. Et sa parole est en plus livrée dans une enquête journalistique qui est quand même extrêmement étayée, extrêmement complète, qui a été faite sur un très long temps. Donc on est très très loin d'un tribunal médiatique, on est très très loin d'un pugilat facile, on est très très loin de ce qui peut parfois être reproché à des emballements médiatiques. On est vraiment dans un long travail journalistique et dans une parole d'une comédienne qui a mûrement réfléchi sur ce qu'elle a à dire au monde.
Et elle a d'ailleurs décidé tout récemment de porter plainte, alors que dans le moment Mediapart, dans la vidéo, elle expliquait pourquoi elle n'était pas allée dans un premier temps en justice. Le milieu du cinéma, pour le coup, enfin le milieu, je pense à la Société des réalisateurs de films, à la SRF, je pense à l'ARP aussi, a pris des décisions assez rapides. Enfin, il y a un moment à DNL, parce qu'on a le sentiment que la profession aussi se réagit beaucoup plus rapidement que par le passé. Est-ce que vous avez ce sentiment-là également ?
Je crois que Adèle l'a dit elle-même, elle prend la parole à un moment où elle est très écoutée, puisqu'elle est elle domine, je veux dire, elle est connue, elle est respectée, le milieu l'entend, donc elle prend cette parole en tant que personne qui a le pouvoir. Et c'est en ça que c'est un moment politique, et c'est en ça que toute personne qui a le pouvoir se doit de réfléchir aussi à ses côtés, aux choses à mettre en place. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé pendant nos assises qu'ils allaient réfléchir avec le CNC à conditionner les aides du CNC à des mesures prises par les producteurs pour faire en sorte que nos plateaux soient des endroits sécurisés ou des endroits où la parole est libre aussi. Et nous, on est là pour les accompagner. Typiquement, le collectif n'est pas là pour juger ce que telle organisation décide ou non de faire. On est là pour accompagner les pouvoirs publics et les producteurs et tous les acteurs de la chaîne à mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre le harcèlement et pour permettre aux victimes d'avoir un espace de parole libre.
Mais par exemple, ouais. Je crois que vous avez proposé la création d'un référent sur les plateaux de tournage. Expliquez-nous, Laurence Lascari, en quoi ça consisterait ?
Alors, le référent, en fait, c'est une personne qui sera désignée sur un plateau, un peu comme un représentant du personnel. Il y aura une personne qui sera désignée en tant que référent harcèlement. Et c'est vers cette personne qu'on pourra se retourner quand on fait partie de l'équipe en cas de problème.
S'il y a un problème de harcèlement sur un tournage, ça peut être un élément de chantage, de dire « mais non, s'il se passe un truc, tout va s'écrouler, on va être obligé d'arrêter le tournage du film ». Donc vous avez aussi réfléchi à la possibilité de travailler avec les assureurs.
Oui, on est actuellement en réflexion avec tous les assureurs et les syndicats de producteurs et les associations de directeurs de production pour mettre en place des clauses additionnelles d'assurance qui permettent aux producteurs aussi de se couvrir de certains risques et de mettre en place, du coup, systématiquement, à nouveau, ces garde-fous sur le plateau. Donc, ça passe par un référent autodésigné au sein de l'équipe. Hein. C'est pas un référent extérieur, c'est un référent au sein de l'équipe.
Et donc, c'est quelqu'un que, par exemple, qui travaille au son ou à la lumière.
Exactement.
Mais qui est juste la référence pour
qui est le
personne.
Qui est le, en fait désigner en début de plateau quelqu'un ou s'auto-désigner en tout cas comme étant la personne qui écoute, c'est aussi dire voilà, sur ce plateau aucun comportement haineux, raciste, discriminatoire ou dans aucun sens du terme ne sera accepté. Le fait de le dire en début de plateau, ça va déjà mieux, ça conscientise et déjà ça aide à une libération de la parole pour les victimes comme pour les témoins. Il y a aussi une autre chose assez simple à mettre en place et d'ailleurs la clause est sur notre site internet si les producteurs veulent s'en emparer. C'est une clause juridique à rappeler dans les contrats de tous les techniciens, tous les comédiens, tous les techniciennes, toutes les comédiennes qui rappellent que le harcèlement sexuel est puni par le code pénal. Et puis il y a cette clause assureur qu'on est en train de mettre en place et aussi rappeler sur les feuilles de service. Donc les feuilles de service, c'est notre emploi du temps par jour sur les plateaux. Rappeler sur chaque feuille de service qu'on reçoit tous les jours la ligne Info Service violence femme Info Service, qui est une ligne ouverte à toutes et à tous, qui est une ligne d'écoute et une ligne de conseil.
Vous avez l'impression, parce qu'on voit quand même à quel point, malgré les progrès qu'il faut saluer, on est quand même très très loin du monde anglo-saxon. On voit beaucoup de résistance. On a bien vu que des femmes ont témoigné contre Luc Besson dans le plus grand silence. Aujourd'hui, ça bouge un peu. On voit que, par exemple, les féministes ont manifesté suite à la sortie du film de Roman Polanski et aux accusations de la photographe Valentine Monnier. Mais que quand même, on sent qu'il y a une résistance dans le cinéma français. Est-ce que vous pensez, et je vous pose vraiment la question à toutes les trois, Julie, Laurence, Sandrine, est-ce que vous pensez qu'il y a une sous-politisation du cinéma français ?
Effectivement, je pense qu'il y a une sous-politisation, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le collectif 50-50, qui est né du deuxième regard, ça veut dire sur une question du regard, de la façon dont on représente le monde. Le premier travail du collectif, c'est de travailler sur le rapport au pouvoir. Et à chaque fois qu'on interroge le rapport au pouvoir, on voit que la façon dont on peut travailler est infléchie. C'est vrai, comme le rappelait Julie tout à l'heure, on considère que faire des films, ça nous donne une responsabilité particulière, parce qu'on fabrique des grilles de lecture du monde, on fabrique des représentations du monde.
On fabrique ensuite, de l'imaginaire.
On fabrique de l'imaginaire, donc ça essaime. Donc on a une responsabilité sur les histoires qu'on raconte, sur comment on les raconte, et du coup sur qui les raconte. Et qui les raconte, c'est poser la question du pouvoir. Quand on parle de harcèlement, vous posez les questions d'Adèle Haenel et de Polanski, mais quand on parle de harcèlement, on voit bien qu'on pose aussi la question d'un sentiment de supériorité, d'un sentiment de prédation, d'une impunité dans la prédation. Et donc, ça vient interroger directement le rapport au pouvoir. Donc, entre les causes et les conséquences, on peut se pencher sur les causes, sur les conséquences en permanence. Mais là, j'ai envie de dire que Adèle Haenel a fait quelque chose de merveilleux en ne portant pas plainte et que la justice se saisisse elle-même. Bravo Adèle Haenel. Je trouve que la séquence était extrêmement... c'était très, très bien que ça se fasse dans cet ordre-là. Donc, je pense que chacun doit prendre sa place. Et nous, collectif 50-50, on essaye de travailler vraiment sur les causes au départ, sur une meilleure parité, sur une meilleure représentation, sur une meilleure diversité, et ce sont nos engagements.
Et est-ce que vous travaillez, alors on vient d'en parler, sur la parité, l'égalité, vous travaillez aussi au sein du collectif sur la diversité ? Lors de l'ouverture des assises, Dominique Boutonnat, donc c'était le 14 novembre, disait « Je veillerai, je le cite, hein, je veillerai personnellement à ce que les commissions reflètent la diversité de la société française ». Ça aussi, c'est un grand pas en avant, Laurence Lascari.
C'est un très grand pas en avant. Puisque...
C'est la première fois qu'un politique dit ça ?
Il me semble que oui. En tout cas, sur la question de la parité, ça avait déjà été adressé au CNC, l'idée d'avoir des commissions qui soient paritaires. Sur celle de la diversité au sens plus large, il me semble que c'est une première et c'est un très grand pas parce que on a la chance en France d'avoir une industrie qui est très vertueuse avec l'État qui intervient beaucoup pour soutenir les œuvres, pour soutenir la création. Mais là où le bât blesse, c'est que lorsqu'on a des commissions où les profils des personnes qui les composent. Donc ce sont des professionnels du cinéma, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en place, qui sont déjà identifiés.
Donc il faut juste dire, c'est les commissions du Centre National de la Cinématographie qui attribuent les budgets pour que des longs-métrages, des courts-métrages se fassent.
C'est des aides à l'écriture pour les auteurs, des aides pour développer les films, pour les produire, etc. Ces aides sont attribuées après avis d'une commission composée de professionnels de l'industrie.
Et ces décisions, souvent, elles sont cruciales pour la fabrication.
C'est crucial pour ce sont en fait des décisions qui sont cruciales pour permettre à des œuvres d'exister. Pour vous donner un exemple très concret, en 2005, il y a les révoltes urbaines. Suite à ces
dans
les banlieues françaises, tout à fait. Et suite à ces révoltes, donc, Jacques Chirac décide qu'il faut que le cinéma et la télévision reflètent davantage la population française. Et il y a la création d'une commission spécifique du CNC, co-gérée avec l'accès, donc tout ce qui relève de la politique de la ville, pour aider les films qui vont contribuer à représenter la diversité de la France, les quartiers populaires, etc. Il a fallu créer une commission spécifique pour aider des œuvres qui allaient raconter autre chose que ce qu'on voyait habituellement. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu un constat à ce moment-là de se dire « Mais tiens, mais les commissions ne sont pas tellement à même d'aider des œuvres différentes ou portées par des auteurs autodidactes ou qui n'ont pas envie de raconter ces histoires qu'on voit souvent revenir. » Donc il y a cette notion-là. Et c'est vrai que quand Dominique Boutonnat dit qu'il va faire en sorte qu'il y ait plus de diversité dans les commissions, bien c'est de se dire que la diversité, elle doit être partout et pas seulement dans une petite commission avec des petits financements.
Vous, est-ce que vous y pensez à ça quand vous lisez des scénarios
Oui, Julie Billy ? Je crois qu'avec nos parcours personnels, on y pense plus ou moins. Il faut y penser plus parce qu'on voit bien aussi que c'est un vecteur de succès. On voit que des films comme Les Misérables, comme Divine avant lui, comme Patient, comme L'Ascension, que Laurence a produit, sont des films qui représentent cette diversité de la France et qui appellent le succès. Donc il faut y réfléchir et il faut surtout qu'il y en ait plus. Et pour qu'il y en ait plus, il faut que les jeunes qui soient issus des quartiers, qui soient issus de la ruralité, qui ne soient pas du monde du petit sérail, se sentent la possibilité d'accès à nos métiers. Et pour ça, nous, on y travaille beaucoup. Et cette charte pour l'inclusion et la diversité qui a donc été signée par l'industrie et par tous les représentants de l'industrie, les producteurs, les directeurs de casting et directrices de casting, directeurs et directrices de production, toutes ces personnes qui sont à un endroit de la chaîne de fabrication d'un film, et puis évidemment les sociétés de réalisateurs et d'auteurs, on s'est tous mis main dans la main, on a tous décidé d'agir ensemble pour plus de diversité, puisque, il faut le reconnaître, les pouvoirs publics ont un petit problème de lenteur d'action sur le sujet, et notamment du fait que les statistiques ethniques soient interdites en France, que la discrimination positive soit...
Elles ne sont pas tout à fait interdites, je crois qu'elles sont très contrôlées.
Exactement, elles ne sont pas interdites, mais en tout cas, elles sont inapplicables. En réalité.
Et elles suffisent pas.
Et surtout, on n'a pas de chiffres. Donc comment faire ? Eh ben, il faut une action concrète, active, toute une industrie qui se réveille et qui décide de prendre les choses en main. Et ça, on le voit au sein de notre industrie, il y a une vraie volonté d'action et ça fait plaisir et ça donne l'espoir qu'on va changer les choses.
Mais du coup, ça, il peut arriver qu'en discussion avec un cinéaste, par exemple, qui vous propose, ou un scénariste, hein, qui vous propose, par exemple, je sais pas, un personnage de chirurgien qui s'appelle Pierre ou un personnage d'avocat qui s'appelle Paul et que justement ce chirurgien puisse s'appeler Soraya ou que cet avocat puisse s'appeler Mohamed. C'est des conversations que vous avez au quotidien avec vos auteurs,
Laurence? Moi, ça me fait sourire parce que quand on a une société qui s'appelle De l'autre côté du périph, quand on est productrice et qu'on est noire, je le précise parce que vos auditeurs ne me voient pas, je pense qu'il y a moi, je suis animée par cet engagement-là, par cette dimension un peu militante. Donc, en fait, quand un auteur vient me voir, c'est que c'est avec cette idée-là en tête. Donc, ça va de soi, j'ai envie de vous dire. Mais pour autant, ça m'arrive aussi de proposer certaines idées pour changer, pour sortir des sentiers battus. Typiquement, un personnage, donc c'est un maghrébin qui a fait des études à HEC, et s'est marié avec une camarade qu'il a rencontrée dans l'école, qui est écrite pour être blanche. Je demande au réalisateur, je lui dis, mais pourquoi elle serait pas asiatique? Voilà un peu ce type de suggestion que je peux faire pour être dans une modernité et puis faire en sorte de refléter cette société cosmopolite.
Vous, Sandrine Brouwer, c'est un débat que vous pouvez avoir avec des cinéastes?
Oui, mais en fait, moi, les auditeurs ne me voient pas, donc je suis blanche. Mais je pense que ce souci de diversité, il existe aussi, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus triste que... On parlait tout à l'heure des festivals et comment un regard se fabrique quand on fabrique une sélection de festivals. Et je pense que notre premier combat a été de casser l'entre-soi dans les festivals, parce qu'on sait que c'est un endroit de visibilité remarquable, incroyable, qui fabrique vraiment des carrières de cinéastes. Ça, c'est vraiment à l'échelle, je dirais, planétaire de comment le cinéma fonctionne. Mais nous, dans ma société, dans mes rapports avec mes réalisateurs, je pense que c'est non seulement c'est un souci quotidien, mais c'est aussi un souci dont j'ai pris conscience en travaillant avec le collectif. On s'est posé plein de questions. On a abordé la question de la diversité. On a abordé la question de. On se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'essentialiser. Par exemple, sur les questions de parité, on ne dit pas que les hommes regardent systématiquement mal les femmes. On ne parle pas d'ailleurs de films d'hommes et de films de femmes. On regarde juste les chiffres qui nous permettent de regarder la situation et de nous dire qu'il y a des trous dans la raquette. Il y a vraiment des images manquantes, pour reprendre l'expression d'un grand cinéaste. Et ces images manquantes, on ne peut pas s'en contenter. Donc forcément, on travaille dessus. Et c'est vrai qu'au sein du collectif, il y a en ce moment un document qui circule entre nous, qu'on va essayer de mettre à disposition, qui est une grille de questions à se poser. Ce ne sont que des questions à se poser pour réfléchir aux stéréotypes. Lire nos scénarios en se demandant si on a véhiculé des stéréotypes.
Oui, non, mais typiquement, par exemple, dans les stéréotypes, et je pense à la question de la représentation, jusqu'à longtemps, notamment à Hollywood et même dans les films français, je pense par exemple à Angélique, Marquise des Anges, une représentation, par exemple, d'un rapport sexuel, la femme dit non à une, deux reprises, puis finalement, l'homme insiste et elle dit oui. Mais est-ce que ça fait partie des questions qu'on se pose quand on lit un scénario, alors, la représentation?
J'ai eu cette chance de ne pas avoir besoin de lire un scénario qui me propose un personnage comme ça. Mais je pense que le monde a changé aussi. C'est-à-dire, j'espère, enfin, je ne sais pas, hein, mais j'espère que personne ne songerait à écrire un rôle de cet ordre. Enfin,
c'était les années 50, hein, Angélique, mais bon.
Non, mais je pense que le monde a changé. Je pense que les représentations évoluent, et tant mieux. Et la question qu'on doit se poser, on n'est pas responsable de l'écosystème dont on hérite. On est responsable de ce qu'on arrive à fabriquer comme changement. Et c'est ça la question, les questions qu'on se pose, c'est ça, c'est à partir du moment où on sait qu'on fabrique de la représentation et des grilles de lecture, est-ce que nous, au moment où on lit un scénario, au moment où on fabrique un film, est-ce qu'on a fait nos meilleurs efforts pour ne pas nous conformer? Vous savez, je suis productrice, ça veut dire que tous les jours, chaque jour de tournage, je sais exactement combien ça coûte. Donc forcément, je vais toujours limiter les risques. Donc forcément, je vais être un peu conservatrice. Je vais faire appel à des techniciens ou à des comédiens dont je peux identifier le travail qu'ils ont fait avant, le succès qu'ils ont fait. Donc naturellement, je vais être conservatrice. Mais si je suis conservatrice par paresse, peut-être que je peux secouer ça et me dire que je peux modifier ma façon de travailler. Et c'était, là, je vous parle de moi en tant que productrice, mais sur la casquette 50-50, le travail qu'on a fait sur la charte de diversité et la Bible qui vient avec, c'est justement l'outil pour sortir de cette paresse ou sortir sans prendre de risque de ce conservatisme. C'est de se dire, ah, peut-être que je n'ai pas pensé à, peut-être que je ne sais pas où aller chercher. Et donc, il faut fabriquer les outils de ce changement-là.
Julie Billy.
Je voulais juste rappeler que cette Bible 50-50.fr référence les femmes et les personnes issues de minorités visibles, et elles peuvent s'inscrire. Et nous, producteurs, productrices, directeurs de production, on va sur cette Bible pour recruter des personnes issues de la diversité. Donc ce site internet qui est ouvert, gratuit, où chacun et chacune peut aller s'inscrire, c'est pour nous l'outil qui vient accompagner cette charte pour que nos plateaux soient plus divers et que surtout on ait accès à toutes les personnes qui souhaitent travailler dans le cinéma. On travaille aussi, moi, je viens de produire un film dans une cité qui s'appelle Gagarine. Évidemment, je travaille avec des gens de la cité, des jeunes qui intègrent l'équipe, qui intègrent les comédiens. Et c'est quelque chose qu'on fait naturellement quand on fait un film dans une cité, parce que ben, on travaille avec le tissu social et la géographie du lieu où on arrive. Mais je crois que c'est possible de le faire sur n'importe quel film, qu'il soit à Montluçon, à Montreuil ou au fin fond des Vosges. Donc, et la Bible a cette volonté-là qui est universelle et française sur l'ensemble du territoire.
Et vous avez l'impression que ce travail, donc là c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est aussi un travail sur vous-même que vous faites, puisque finalement dans ce processus, ce long processus, tout le monde a bougé. Est-ce que vous êtes obligé de le faire au sein même de vos équipes? Je pense par exemple à ce que disait Elisabeth Tanner, donc qui est agente artistique, ça c'était pendant les assises il y a 15 jours. Elle disait, sur un casting, l'acteur masculin est considéré comme un produit d'appel, donc il impose son prix. Et l'actrice principale, elle doit justement s'ajuster en fonction du budget existant. Donc est-ce que parfois, sur vos propres films, vous vous trouvez face à des débats de ce type? Et du coup, à des discussions? Laurence Lascari.
Alors, moi, j'ai eu l'expérience un peu inverse, parce que sur L'Ascension, c'était Alice Belaïdi qui avait plus d'expérience, qui était plus visible qu'Ahmed Silla. Donc, je n'ai pas encore eu à me poser cette question.
Et vous, Sandrine Brouwer?
Non.
Non. C'est-à-dire, ça pose pas question, c'est-à-dire pour vous.
Si, non, mais évidemment, ça pose question.
Parce qu'il y a des agents, il faut discuter, négocier avec les agents.
Oui, mais enfin, quand je dis non, c'est parce que là, c'est comme si je séchais, parce que on a deux casquettes quand on vient ici. On a notre travail quotidien en tant que producteur et productrice, et il y a la casquette 50-50. Et je pense que un des efforts qu'on fait sur le collectif, c'est justement de sortir, de respecter comment fonctionne notre métier. Et c'est vrai qu'il y a chaque film est un prototype, chaque relation est une relation particulière, chaque négociation a son. Donc, si vraisemblablement la question que vous me posez, elle vient. Mais disons que depuis qu'on s'en a empoigné ces sujets, il se trouve que moi, dans les films que je produis, je n'ai pas eu pour l'instant ce genre de discussion. Enfin, c'est pas venu percuter mes conversations.
Mais typiquement, Ouda Benyamina, qui est donc réalisatrice de Divine et qui était aux Assises et racontait une histoire très intéressante où elle a menacé une production sur laquelle elle travaillait, de partir parce que il ne voulait pas intégrer plus de diversité dans son équipe. Et donc c'est aussi le rôle de chaque personne qui a un peu de pouvoir sur un plateau, que ce soit le producteur, la productrice, la réalisatrice, ou même le comédien ou la comédienne, ou même le chef d'écho, en tout cas quelqu'un qui est à un endroit de cette chaîne, c'est à chaque interlocuteur de prendre en main aussi ce changement et d'aller recruter des stagiaires dans des organismes comme des associations comme Mille Visages ou la Fondation Culture et Diversité, il y en a plein, ou Courtrajmé, qui sont des associations qui sont pleines de talents et il leur manque juste des occasions pour prouver leurs talents. Et donc nous, on est là pour faire en sorte que tous ces talents-là soient un peu plus visibles et soient mis en connexion avec notre industrie qui est dans laquelle il y a beaucoup de travail.
Et on a beaucoup parlé suite à une intervention de l'actrice Frances McDormand qui parlait d'une clause qui s'appelle l'inclusion rider. Donc en gros, hein, je vais sûrement l'expliquer un peu grossièrement, mais c'est une clause qui permet en fait aux acteurs et aux actrices d'avoir un pouvoir sur la représentation des minorités dans le film pour lequel ils sont engagés. C'est-à-dire en gros, ils ont le pouvoir de dire voilà, bah, je trouve que c'est un casting, il y a que des blancs, donc c'est pas possible. Il faut que ça reflète mieux la société. Est-ce que c'est une réflexion que vous conduisez au sein du collectif ?
Alors, c'est une réflexion que nous avons conduite, puisque à l'origine, en fait, on a voulu travailler sur une adaptation de l'Inclusion Rider en France, et on s'est très vite aperçu que ça n'était pas transposable.
Ah bon ?
Oui, parce que l'Inclusion Rider s'appuie sur des statistiques de la population par ethnie, etc., ce dont on ne dispose pas en France. Et puis, c'était très contraignant, même si ça n'était pas si bien appliqué que ça. Et en termes de répartition du pouvoir, là, dans l'Inclusion Rider version américaine, ce sont des comédiens qui s'emparent de leur pouvoir pour exiger des choses, des décisions dans les équipes derrière la caméra. Et en France, on ne pouvait pas faire ça sans penser aux réalisateurs. Donc, de toutes ces réflexions-là, de toutes ces difficultés qu'on rencontrait, on a finalement décidé de proposer une charte. De proposer une charte qui engage les organisations qui la signent et leurs membres à un certain volontarisme sur la question de la diversité, de l'inclusion, et on leur donne des outils, on leur donne des pistes. Par exemple, quand on signe la charte, on s'engage à faire appel à des stagiaires. Si les personnes ne savent pas où les recruter, nous, on leur propose des associations, différents organismes vers lesquels se tourner pour aller recruter des jeunes qui sont éloignés des milieux du cinéma. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, ils s'engagent aussi à faire tous leurs efforts pour un recrutement plus diversifié. En face de ça, on propose la Bible, etc., etc. Donc voilà comment on a pu adapter l'Inclusion Rider.
Mais au-delà des stagiaires, enfin, parce que je rebondis juste, c'est que en fait, il s'agit évidemment. Je vais prendre un exemple très concret. Imaginez une séquence dans laquelle on dit voilà, je suis en face de vous, Elisabeth Le Carré, vous allez descendre en bas de chez vous, acheter votre journal dans le kiosque à journaux à côté. Votre directeur de casting, naturellement, va faire une liste de comédiens qu'il va recruter ou vous proposer à vous, réalisatrice. Il va aller chercher un certain nombre de comédiens pour jouer ce kiosquier. Et naturellement, vous savez, on a un présupposé en France, c'est que si c'est pas écrit dans le scénario ou si on n'a pas si dans la narration il n'y a pas de raison pour que la personne soit particulièrement d'origine africaine ou d'origine, enfin, on a un problème, c'est que le présupposé c'est que les gens sont forcément blancs.
Par défaut donc.
Par défaut, on est blanc.
C'est ce que toutes les comédiennes qui sont perçues comme non blanches, donc hein, pour reprendre la terminologie, dénoncent, et les comédiens.
Et du coup, quand je parlais tout à l'heure en tant que productrice du fait que je suis forcément conservatrice et que forcément je vais me rassurer sur les techniciens, je vais pas prendre de risques sur mon chef op, le directeur de casting de la même manière ne va pas prendre de risques et il va pas forcément, et personne n'y pense à mal, mais simplement, il va vous proposer, à vous, Elisabeth Le Carré, si demain vous réalisez cette séquence, il va vous proposer 3 ou 4 personnes qui vont peut-être, alors il y aura peut-être un petit gros, un grand blond, enfin, voilà, mais ils seront tous blancs. Et du coup, dans la charte, la proposition, c'est aussi de se dire qu'on peut peut-être créer la rencontre. Il n'y a aucune contrainte, mais de créer la rencontre et de permettre à des gens de se rencontrer, ça leur permet aussi de se professionnaliser, ça permet aussi de mesurer ce que représentent ces enjeux. Et puis, aller savoir en plus, peut-être que le kiosque sera
moi,
différent.
Ce que j'ai appris de mon expérience avec l'Ascension, de notre travail avec 50-50, c'est vraiment, j'ai envie de m'entourer de personnes qui sont autant convaincues que moi. Alors qu'auparavant, j'allais chercher, je regardais uniquement les compétences professionnelles et l'expérience. Maintenant, j'aurai cette discussion avec le directeur ou la directrice de production, avec le directeur, directrice de casting, etc. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire sur ces notions de diversité parce que il n'y a rien de plus compliqué et je parle avec l'expérience que d'être dans une lutte avec une personne qui fait partie de votre équipe, qui travaille pour vous, pour essayer de la convaincre que c'est important de composer des équipes diverses.
Vous avez déjà été un peu en butte à la discrimination. Vous l'avez ressenti à vos débuts, Laurence Lascari?
Moi, ce que j'ai surtout ressenti, c'est que j'étais personne et que voilà, j'avais rien à faire là, peut-être si j'étais comédienne. Donc voilà ce que j'ai ressenti au début. Ça a été, on va dire, 5-6 longues années où je suis allée chercher les contacts les uns après les autres et j'ai pu m'appuyer aussi sur les quelques personnes bienveillantes que j'ai croisées.
Aujourd'hui, les ambiances de plateau, elles ont un peu changé. Je vous pose la question à toutes les trois, Julie, Sandrine, Laurence.
Moi, j'avoue que j'ai la chance d'avoir toujours travaillé avec des réalisateurs et des réalisatrices absolument formidables. Donc, il y avait sur leur plateau des ambiances très paritaires, jeunes, égalitaires. Après, voilà, on est d'une génération aussi qui est la jeune génération de production.
Vous êtes très jeunes toutes les trois, il faut le dire.
Avec une jeune génération de réalisateurs aussi. Donc, je crois qu'en tout cas, ce qui a changé, c'est la conscientisation. C'est-à-dire que tout le monde a conscience. Notre chef op a conscience que son équipe est masculine et essaye de changer ça. J'avais encore cette conversation il y a quelques semaines avec lui. Il me disait, je sais et j'ai fait exprès de recruter deux femmes parce que j'en ai marre de ne travailler qu'avec des hommes. Et donc, il va, et il y a très peu de machinistes femmes, il y a peu d'électriciennes femmes, et ben, il va les chercher parce qu'elles sortent de l'école, parce que il a le contact d'un tel. Et ça, c'est là où ça change, c'est qu'à partir du moment où il y a une conscientisation, il y a une volonté d'évolution, je crois. Parce qu'on est quand même dans un milieu qui est très ouvert et très, et qui se veut exemplaire. Donc, ouais, je crois que ça, c'est en train de changer.
Donc, ça veut dire que féministe, c'est plus un gros mot dans le cinéma français, comme on avait le sentiment que ça a été quand même pendant très, très longtemps.
Non, je crois que Shiva Manda, Ngozi Adichie l'a très très bien dit. Nous sommes
la grande romancière d'origine nigérienne.
Et ça va avec une réflexion intersectionnelle, c'est-à-dire que le féminisme ne se pense pas seulement du point de vue de la bourgeoisie blanche, mais aussi d'un point de vue divers et représentatif de la société française.
Je pense qu'en République française, on peut parler d'égalité des droits. C'est-à-dire que partout où il y a une rupture d'égalité, évidemment, il y a des mesures à trouver et des correctifs à apporter. Mais c'est juste pour être plus joyeux et mieux dans notre peau et mieux dans notre environnement.
C'est un bon mot de la fin. Merci à toutes les trois, Sandrine Brouwer, Laurence Lascari, Julie Billy.
Merci.
Et si vous souhaitez donc avoir plus d'infos sur le collectif 50-50, eh bien, il faut aller sur Internet, la Bible dont vous parliez,
bible-5050.fr.
Merci.
Est-ce qu'il y a un tiret? J'ai un doute, excusez-moi.
C'est bible-5050.fr.
bible-5050.fr. Ou sur le collectif avec toutes nos actualités, collectif-5050.fr.
Voilà, et si on vient d'un pays autre que la France, est-ce qu'on peut adhérer au collectif 50-50? C'est une question subsidiaire.
Tout à fait. D'ailleurs, le site du collectif est traduit entièrement en anglais, donc toutes les informations sont en anglais sur le site également.
Voilà, et les résultats des assises sont publiés sur le site 50-50, également sur le site du CNC. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation, Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons en compagnie du documentariste Michel Kazongo, dont le film Pas d'or pour Kalsalka sera projeté à Paris dans le cadre du festival Jean Rouche. Voilà, c'est un doc sur la façon dont les multinationales exploitent les richesses minières du continent africain. Ça promet d'être passionnant.
Tous les cinémas du monde. Musique du monde.